de voir, en fin de compte, chacun d'entre vous. J'aimerais vous encourager dans une chose qu'en fin de compte, vous avez déjà pratiquée durant le culte. J'aimerais parler aujourd'hui de la prière. Prendre un passage où Paul prie pour les Colossiens. C'est dans la lettre aux Colossiens. Et Paul est en prison à ce moment-là. Et il leur écrit une lettre. Il leur écrit une lettre parce qu'il a reçu la visite de personnes qui viennent de Colosse. Il a appris comment les chrétiens de Colosse vivent. Et il leur écrit cette lettre alors qu'il n'est jamais allé à Colosse apparemment. Comment les choses se sont passées pour que l'église se soit construite à Colosse? C'est un des collaborateurs de Paul qui s'est converti à Éphèse, juste à côté de Colosse, qui est allé dans l'autre ville et qui a commencé cette église. Donc Paul, en fait, écrit à une église qu'il ne connaît pas. Il leur écrit parce qu'il a entendu parler d'eux grâce à un ami qui est en prison avec lui, un frère qui s'appelle Épaphras. Il dit en Philémon 23 qu'il est son compagnon de captivité. Ils se trouvent tous deux en prison et Paul, apprenant comment les Colossiens vivent leur foi, se soucie d'eux et leur écrit. Il commence en fait sa lettre par une prière de louange et une prière où il demande des choses à Dieu. C'est dans le premier chapitre, peut-être certains d'entre vous l'ont lu dernièrement. Je ne vais pas m'attarder sur la prière de louange, mais tout à l'heure, un frère a expliqué ce que c'était aussi la louange. Donc Paul remercie Dieu pour toutes les bonnes choses que les Colossiens vivent et ont reçues de Dieu. Et au chapitre 1, verset 9, en plus de cette louange, il demande des choses à Dieu. Je vais donc faire la lecture. Colossiens 1, verset 9 et 10. Et ensuite, je lirai au chapitre 2, les versets 1 à 3. Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, c'est-à-dire où nous avons appris votre conversion, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. C'est tout un programme. Chapitre 2, versets 1 à 3. Toujours dans Colossiens. Paul écrit encore quelques lettres, puis il revient sur ce sujet, et voilà ce qu'il écrit. « Je veux, en effet, que vous connaissiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et remplis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. » Ce sont deux passages qui parlent beaucoup de connaissance, de sagesse, d'intelligence. Au début, je me demandais un peu ce que ça voulait dire, parce que ce sont des termes qui reviennent régulièrement. Et puis, en creusant un petit peu, eh bien, j'ai vu que Paul a un but, c'est que les Colossiens connaissent qui est Dieu, non pas d'une manière seulement intellectuelle, mais que, en le comprenant, ils puissent le vivre. C'est-à-dire qu'en comprenant qui est Dieu, ils puissent l'exprimer autour d'eux, d'une manière très pratique. Les mots qui sont utilisés pour parler de sagesse, ce sont des mots, en fait, qui parlent d'une sagesse pratique. En grec, le mot sagesse, sophia, peut désigner un terme, une sagesse, une connaissance intellectuelle, mais aussi une connaissance pratique, concrète, qu'on peut appliquer dans nos relations. Et le mot intelligence, c'est en fait comprendre, une compréhension du mystère de Christ, une compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il veut pour nous. Paul écrit aux Colossiens et par la suite, dans toute son épître, il va les encourager à mettre en pratique ce qu'ils connaissent de Dieu. Il va les encourager en les prévenant, en les avertissant des dangers qui étaient liés à certains faux enseignants qui prêchaient de mauvaises choses dans les environs de Colosse et d'Éphèse. Il va les encourager à s'aimer les uns les autres. Il va les encourager, en fin de compte, à chercher les choses les meilleures. Dans Philippiens, au verset 10, 9 et 10, il parle aussi de la connaissance et de l'intelligence et il dit « Sa prière pour les Philippiens, c'est que votre amour augmente de plus en plus en pleine connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Que votre amour augmente de plus en plus, en fin de compte, pour comprendre quelles sont les choses les meilleures. En fin de compte, c'est de pouvoir ressembler toujours plus à Christ dans nos relations les uns aux autres, aussi bien sûr avec notre Père Céleste, mais d'une manière toute pratique les uns envers les autres. La connaissance dont parle Paul ici, c'est de pouvoir savoir comment exprimer l'amour les uns envers les autres et la foi les uns envers les autres. Paul prie ainsi pour les Colossiens. On pourrait se l'imaginer dans la prison avec son ami Epaphras, se mettant à genoux et commençant à implorer Dieu pour que les Colossiens grandissent dans cet amour et dans cette connaissance de Dieu. On pourrait l'imaginer peut-être pleurant aussi, se souciant vraiment et réellement de la manière dont les chrétiens vivent leur foi les uns avec les autres. C'est un bel exemple, je trouve, d'amour et de prière pour nos frères et sœurs. Et après cela, après que Paul ait dit aux Colossiens « Je prie pour vous pour cela, pour que vous connaissiez davantage Dieu et que vous mettiez en pratique cet amour et cette foi les uns envers les autres », il ne reste pas à leur dire « Je prie pour vous ». Il leur donne des impératifs. On l'a lu au verset 10. Paul dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. » Paul, après avoir prié, intercédé, il n'en reste pas là, mais il va aussi se mettre en mouvement, agir pour que sa prière puisse être accompagnée d'un acte concret. En fait, Paul prie pour que les Colossiens reçoivent favorablement sa lettre, pour qu'ils puissent être transformés par Dieu dans leur cœur, dans leur manière de vivre. Et Paul prie pour cela, leur écrit et lie à sa prière un acte pratique, c'est-à-dire il va les encourager, il leur donne même un impératif. Oui, vivez de cette manière. C'est un bel exemple, je trouve aussi, si nous prions pour quelqu'un, de pouvoir aussi aller vers cette personne, et si nous prions pour quelque chose envers cette personne, de pouvoir aussi l'encourager dans cette chose. Si nous prions pour un frère ou pour une sœur qui est dans le deuil, par exemple, de pouvoir aussi aller vers cette personne pour l'encourager. De ne pas rester à la prière, mais de faire confiance que Dieu répondra à nos prières aussi en nous utilisant. De plus, au chapitre 2, nous l'avons lu tout à l'heure, Paul écrit aux Colossiens pour les consoler, les encourager, afin qu'ils soient fermes dans la foi et qu'ils expriment leur amour les uns envers les autres. Paul, en fait, exprime très clairement son but lorsqu'il écrit cette lettre. Ses prières et cette lettre vont dans le même sens. Et à la fin, au chapitre 4, Paul dit aussi aux Colossiens de prier pour lui, pour son propre combat, pour l'annonce de l'évangile là où il est en prison, parce que ce n'est pas facile pour lui non plus. Et de cette manière, en fin de compte, et Paul et les Colossiens prient les uns pour les autres. J'aimerais prendre, en fait, avec vous un exemple qui m'est arrivé de prière. De prière où j'ai vu Dieu qui répondait et qui m'a aidé aussi à avoir une attitude qui correspondait à ce que je priais vis-à-vis des autres. Avant de commencer Emmaüs, j'ai travaillé dans un foyer pour des jeunes qui avaient besoin d'aide à faire des devoirs. Et puis moi, je m'occupais de la partie plutôt animation, prendre le goûter, mais aussi gestion du cadre et puis des limites pour que ça se passe bien aussi. Et puis, il y avait quelques jeunes qui avaient un peu des problèmes, on va dire, avec les limites. Et je dois dire qu'il y a eu des moments où c'était vraiment difficile pour moi. Et j'ai pris l'habitude de prier avant d'aller au travail. Si j'avais le temps, je prenais plus de temps. Si j'avais pas le temps, je faisais une prière très courte. Mais c'était vraiment, en fin de compte, un combat pour moi. Et j'ai pris le temps de prier. Et au bout de quelques mois, il y a eu une assez grosse histoire. Et en fin de compte, il y a deux des jeunes qui sont venus vers moi et qui ont présenté leurs excuses en disant « Mais on est allé trop loin et puis on vous demande pardon et on va changer d'attitude. » Et pour moi, c'était en fin de compte une réponse à mes prières. Non pas que j'avais prié d'une manière exceptionnelle, mais que Dieu avait transformé le cœur de ces jeunes, les avait amenés plus loin. Ils ne s'étaient pas convertis, mais je ne leur avais pas forcément parlé de la foi, mais ils avaient eu un changement dans leur attitude et j'y voyais réellement quelque chose de la part du Seigneur qui avait permis à ces jeunes de réaliser dans leur relation qu'il y avait des choses qui devaient changer. Et j'aimerais aussi prendre un autre exemple qui date de un peu plus longtemps, on va dire, du 4e siècle après Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez Monique. Monique, c'était une maman qui vivait en Tunisie actuelle. Et elle était mariée à un magistrat qui s'appelait Patricius et qui n'était pas chrétien. Et elle avait aussi un fils. Et elle était croyante, vraiment croyante, engagée. Et chaque jour, elle allait à l'église, parce que ça se faisait comme ça à l'époque, à cet endroit-là. Elle allait le matin et le soir, et chaque matin et chaque soir, elle priait pour son mari et pour son fils. Elle priait avec les autres frères et sœurs pour son mari et pour son fils, chaque jour avec persévérance. Et peu avant sa mort, son mari s'est converti. Mais son fils, lui, eh bien, à partir en fait de son âge, même de l'enfance, il a commencé à mal se comporter. C'était peut-être des petites choses, mais c'était mal. Il a mal tourné. Il se mettait à mentir, à voler des friandises, à traîner avec de mauvais camarades et à mentir autant à ses maîtres d'école qu'à sa maman. C'était une mauvaise direction qu'il prenait. Mais la maman, Monique, continuait de prier pour lui et pour son mari qui n'était pas encore converti à ce moment-là. Et en plus, dans sa manière de vivre, elle montrait toujours de l'amour. Elle avait choisi d'exprimer cet amour pour sa famille, qui ne croyait pas, qui des fois lui menait la vie dure. Ce n'était pas une résignation, c'était une décision ferme qui était possible, grâce à l'aide du Seigneur, d'aimer son mari et son fils malgré ses difficultés, malgré leur attitude mauvaise. Malheureusement, son fils ne s'est pas amélioré. C'était de mal en pis. Et quand il est devenu adulte, il a vraiment mal tourné. Il a pratiqué toutes sortes de choses mauvaises. Il participait aux orgies de la ville. Ils pratiquaient toutes sortes de débauches. Et ils savaient qu'elle priait, mais ils s'en moquaient complètement. Et elle avait beau prier, prier avec larmes devant Dieu, avec une grande peine, lui continuait de vivre sa vie comme il voulait. Et au bout de 10 ans, de 10 ans de prière, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'était pas du tout ce que pensait Monique. Elle aurait espéré qu'il se convertisse, mais il a choisi de partir à Rome, la capitale de l'Empire romain. Là où il y a tous les vices, là où il y a toutes sortes de pratiques qui, pour elle, elle savait, seraient une grande tentation pour son fils et il y entrerait en plein dedans, très certainement. Alors que son fils était sur le navire qui s'en allait à Rome, elle a véritablement cru perdre définitivement son fils. Mais voilà, à Rome, il était professeur de rhétorique, c'est-à-dire qu'il apprenait aux élèves à parler en public. Mais le problème, c'est que les élèves à Rome, eh bien, ne le payaient pas. Donc il a dû changer de ville. Et il s'est retrouvé à Milan, où un chrétien très engagé qui s'appelait Ambroise donnait des conférences et prêchait, parlait de la foi, et il s'y est rendu pour pouvoir non pas entendre parler de l'évangile, mais il trouvait intéressant de voir comment cet homme de Dieu, qui avait une certaine éloquence, présentait ses arguments, ses propos et parlait de la foi. Et en fin de compte, ça l'a un peu travaillé, mais il ne voulait pas changer de vie. Il se disait, demain, oui, c'est vrai, peut-être, mais aujourd'hui, je veux rester dans ce que je vis, dans mes vices, dans mes désirs que je veux assouvir, et en fin de compte, je ne veux pas changer d'attitude, je ne veux pas venir à ce Seigneur qui m'appelle. Puis, un jour, il y eut un changement radical. Il avait un Nouveau Testament, qui était écrit, je pense, en grec à l'époque, et il s'est mis à le lire, et il a été complètement convaincu que c'était le moment. Il ne devait plus remettre à demain. Et il est sorti dans un jardin, il s'est mis à pleurer, il a eu une conversion intérieure, enfin une conversion, je veux dire, mais Dieu a touché son cœur, son être intérieur, et il s'est repenti, il a demandé pardon, et à partir de ce moment-là, il a changé. Sa maman a pu le rejoindre à Milan, peu après, il s'est fait baptiser par cet Ambroise, ce professeur et prédicateur. Et cet homme est rentré en Afrique. Et c'est après 15 ans de prière, même qu'il était à Rome et loin de sa maman, après 15 ans de prière, que sa maman a vu les fruits de ses prières, la réponse de Dieu. Et cet homme qui en fait s'appelle Augustin, qui était un homme, un grand homme en fait de l'Église, qui a beaucoup encouragé et exhorté l'Église du 4e siècle, va écrire que c'est certainement à cause des prières de sa maman qu'il s'est converti, qu'il est venu au Seigneur. Et c'est un encouragement que j'aimerais vous laisser. Après cette prédication, si vous priez pour des gens, continuez. Ne vous lassez pas. Persévérez à cause de l'espérance qu'il y a en Dieu. Parce que c'est lui qui change les cœurs, ce n'est pas nous. Mais à nous, il demande de prier. De prier autant pour les membres de notre famille qui ne sont peut-être pas convertis, mais aussi, comme Paul, de prier pour nos frères et sœurs, pour qu'ils restent fermes dans la foi, pour qu'ils grandissent dans l'amour, pour qu'ils grandissent à l'exemple de Christ. C'est l'exhortation, c'est l'encouragement que je veux vous laisser ce matin, de prier les uns pour les autres et de continuer à le faire encore et encore, car Dieu répond à nos prières.